Bonjour à tous. Avant toute chose, merci beaucoup Nadia et toute l'équipe des Écrans du Sud pour cette idée de programmation autour du Teen Movie. Le Teen Movie, donc les films d'adolescents ou pour les adolescents. Programmation comptant, vous l'avez vu, Breakfast Club ce matin de John Hughes, 1985. Donc ça nous renvoie à d'autres temps, je n'étais pas né, moi par exemple. Et Les Beaux Gosses. Là, cette fois-ci, j'étais né et je l'ai même vu en salle et j'avais énormément ri à l'époque. J'avais 20 ans et ça m'avait plié en deux, comme toute la salle. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour vous tout à l'heure. On verra ça, mais avant, Breakfast Club. J'aime beaucoup la programmation, d'abord, parce que je trouve que les films sont extrêmement complémentaires. Très complémentaires parce qu'ils ne montrent absolument pas l'adolescent et l'adolescence sous le même angle. Ils ne le prennent pas sous le même angle et surtout, ils ne le traitent pas de la même manière. Vous allez avoir une approche que je qualifierais de dramatique, tragicomique, idéaliste dans Breakfast Club et une approche beaucoup plus caricaturiste dans Les Beaux Gosses. On y revient tout à l'heure, bien sûr. Mais avant toute chose, Breakfast Club. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu, vous, ou si vous l'avez découvert. Ouais, ça a été une découverte pour certains d'entre vous ? Je vois beaucoup de têtes, ok. Très bien. Ça ne m'étonne pas, parce que c'est des films qui deviennent cultes, souvent en VHS, les films américains des années 70, 80. C'est vraiment dans les années 80, c'est un truc que j'ai découvert, c'est vraiment dans les années 90 que les films américains sont devenus aussi en salle des succès. Il y a des films cultes que vous connaissez tous, et en fait on réalise qu'en salle, ça n'avait pas tant été vu que ça. Breakfast Club, typiquement en est un. Aux États-Unis, c'est un carton au box-office. En France, ça ne marche pas tant que ça. C'est trop américain peut-être. Je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que je pense que c'est très adapté à un public de lycéens. Et je pense que ça peut tout à fait leur parler. Ça peut même les surprendre de voir qu'à 40 ans d'écart, un film a pu peut-être à ce point continuer, peut à ce point continuer de leur parler. Ou alors au contraire qu'il y aura un espèce de rejet parce que vous avez vu aussi que le film porte son âge aussi, mine de rien. Il a 40 ans et aujourd'hui, c'est un film qui serait tourné autrement, je pense. Ce sont des personnages qui seraient autres. Ce seraient des divisions, des marqueurs sociaux qui seraient un peu différents. Évidemment, tout ça, il faut le prendre en compte. On va voir comment on peut essayer de le mettre à distance, d'en parler, de l'intégrer. Mais avant ça, j'ai quand même envie de le resituer dans son genre. Je vous disais que la programmation était centrée, mine de rien, autour du teen movie. Le teen movie, c'est aujourd'hui, on en parle comme d'un genre, c'est-à-dire comme on parlerait du film d'horreur, comme on parlerait de la comédie populaire, comme on parlerait du drame historique. On parle du teen movie. Mais ça, le fait de parler du teen movie, c'est-à-dire le film d'ado, le film pour ado, c'est plutôt relativement récent. Et ce qui fait qu'on a commencé à en parler, eh bien, c'est notamment grâce à des films comme Breakfast Club qui ont assumé de fixer les codes de ce genre. Avant Breakfast Club, avant, disons, le milieu des années 80, évidemment qu'il existait des teen movies, ce qu'on a appelé rétroactivement, ce qu'on a rangé dans la catégorie des teen movies, mais ça n'était pas un genre, un label, une étiquette qu'on donnait, par exemple, dans la critique, qu'on sortait un film avec des ados. On le rangeait sous d'autres genres. Et je dirais que jusqu'au milieu des années 80, jusqu'à John Hughes en fait, le teen movie était un peu un genre un peu parasite, c'est-à-dire qu'il s'adossait à d'autres genres. Je vais vous montrer d'ailleurs des teen movies assez classiques des années 70 et 80, période où vraiment cette espèce de tendance à vouloir parler aux ados va se renforcer et s'affirmer. Je vais vous montrer des références que vous connaissez tous, des références qui sont populaires, mais à l'époque on ne les aurait pas totalement classées comme teen movie, on les aurait classées comme autre chose. Je vais vous les montrer, je pense que vous les connaissez tous. Donc je vais aller naviguer sur l'ordi à chaque fois. Voilà, par exemple, ces références-là. Je pense que vous les connaissez tous. Vous avez Grease, en 77-78, qui est donc plutôt une comédie musicale, en fait, mais qui se passe dans un lycée avec des personnages de lycéens. Alors bien sûr, John Travolta n'avait plus du tout l'âge d'un lycéen déjà à l'époque, mais c'est une convention. Vous savez, à Hollywood, on prend toujours des gens qui ont 10 ans de plus pour faire des ados. Mais c'était plutôt une comédie musicale. En fait, c'était aussi un teen movie. Carrie au bal du diable, 76, Brian De Palma, film d'épouvante. Complètement teen movie aussi. Vous allez vraiment retrouver tous les stéréotypes du genre, tout ce qui sera fixé par des films comme ceux de John Hughes dans les années 80. Ensuite, on va vraiment arriver dans un moment, début des années 80, où l'industrie hollywoodienne prend conscience... ne prend pas conscience, ça arrive depuis les années 50. Depuis les années 50, on comprend que les ados vont au cinéma, avec les drive-in, tout ça, et on comprend qu'on peut s'adresser à eux. Disons que le teen movie, vraiment, l'idée de s'adresser aux ados, ça date vraiment de cette décennie-là, les années 50. Et ça se raffermit dans les années 60, 70, jusqu'à arriver à des propositions très ciblées. Porky's, qui n'est pas très connu en France, est vraiment le parangon l'exemple, le modèle du teen movie potache, comédie populaire, qui s'adresse directement à l'humour des ados, mais vraiment sous l'angle le plus stéréotypé. Pour vous donner un exemple qui vous parlera peut-être un peu plus, c'est vraiment, disons, l'origine d'un film comme, d'une série comme American Pie. Vous voyez, où vraiment on va prendre les ados sous l'angle le plus cliché, sans se contenter de ce qu'ils évoquent à nos yeux, l'âge bête, la découverte de la sexualité, la difficile découverte de l'intimité, et on en fait des gags, et c'est vraiment une suite de sketchs. Porky's, ça n'est pas l'origine de ça, mais c'est vraiment un film qui assume de faire ça. Et puis ensuite, un film que vous connaissez probablement, Risky Business, qui a révélé Tom Cruise. Tom Cruise étant, comme tous les acteurs que vous avez vus tout à l'heure dans Breakfast Club, une espèce de bébé années 80 qui d'ailleurs... né dans le teen movie. Tom Cruise arrive dans des films qui commencent vraiment à s'adresser aux ados et dans lesquels on essaie d'inventer des personnages dans lesquels les ados vont pouvoir s'identifier, se refléter, se reconnaître ou désirer être à l'image de ces personnages-là. Typiquement, Tom Cruise est un bébé teen movie. C'est la progéniture du teen movie. Breakfast Club va un petit peu briser les codes. Breakfast Club, non pas pour la première fois, il y a d'autres films qui commencent à le faire, mais c'est celui qui va, le premier qui va connaître autant de succès. Breakfast Club de John Hughes va, pour la première fois, non pas se contenter de clichés et d'aventures un peu exubérantes comme dans Risky Business. Breakfast Club va s'intéresser aux ados, va s'intéresser à leurs problèmes et va essayer de remplir le cliché, de creuser le stéréotype de chaque ado, vous savez, de la prom queen, c'est-à-dire la reine de beauté, le dominant, le champion, le brain, celui qui va être un peu le nerd, celui qui va être un peu marginalisé, le criminel, le marginal. Il va essayer de remplir tous ces clichés-là d'une espèce d'intériorité pour, cette fois-ci, non plus seulement s'adresser aux ados d'un point de vue commercial, tiens, on vous donne un film, tiens, on vous fait rire avec ce qu'on imagine être votre humour, mais pour leur parler vraiment. Essayer de remplir tous ces clichés d'une espèce d'intériorité, d'une conscience morale. Et c'est, je pense, vraiment l'ambition de John Hughes dans deux films. Il en fait plus, en fait, John Hughes. Mais il y a deux films qui font vraiment ça, c'est Breakfast Club, 85, et l'année d'après, Ferris Bueller, La folle journée de Ferris Bueller, qui est aussi de John Hughes. Et ce qui est d'autant plus étonnant que John Hughes se mette à faire ça, c'est qu'en fait, John Hughes, d'où il vient ? John Hughes, il vient du National Lampoon. Le National Lampoon, c'est une espèce de mélange, si pour vous parler de références françaises, entre Charlie Hebdo et les Guignols de l'Info, mais sous version papier. C'était une revue très satirique, très caricaturale, qui en fait a donné lieu à des films. Hamburger, film sandwich, beaucoup, les années collège, les folles vacances, beaucoup de films dans le style de Porky's. Or, notre ami John Hughes, le réalisateur et scénariste de Breakfast Club, il vient de là en fait, il vient de la comédie potache. Et c'est presque contre ses propres clichés, contre des clichés qu'il avait lui-même contribué à renforcer, qu'il va écrire Breakfast Club et Ferris Bueller. Donc voilà, pour vous resituer un petit peu John Hughes, l'histoire du genre, où on en est en 1985 quand sort Breakfast Club, pourquoi ce phénomène ? Eh bien tout simplement parce que pour la première fois, un film, certes, fait mine de flatter tous les codes du film pour les jeunes, ça va se passer dans un lycée, le synopsis est très facile à comprendre, une journée de colle, des personnages stéréotypés, mais cette fois-ci on va essayer d'entrer dans leur tête, on va essayer de faire tomber les masques de tous ces stéréotypes. Et mine de rien, ça va contribuer à fixer, je vous le disais tout à l'heure, les codes durablement du teen movie, à le nuancer de quelque chose de moins comique, de quelque chose de plus profond, comme si on essayait de le ramener au sol, vraiment, vous savez, au sens de la gravité, quoi, la force gravitationnelle, comme si on essayait de ramener tous ces clichés au sol de quelque chose d'un peu plus réel, d'un peu plus authentique. Bon. Quelle forme ça va prendre ? Eh bien, je vais vous le montrer tout simplement avec l'ouverture du film, je pense que c'est le plus simple. Je vais vous montrer vraiment la toute ouverture du film. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous l'avez vu tout à l'heure, mais ça s'ouvre par une citation de David Bowie, qui vole en éclats. Et puis ensuite, on arrive dans un lycée. Tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Devanture de lycée, alors c'est une ville imaginaire, mais ça se passe dans l'Illinois, Chicago, banlieue résidentielle. Et puis on va visiter comme ça, vous allez voir, tous les lieux communs d'un genre en fabrication. Les casiers, les vestiaires, le réfectoire. On va visiter un lieu, en fait. Un lieu que vous connaissez quand vous êtes un spectateur de 1985, parce que vous avez probablement vu Grease, parce que vous avez probablement vu Carrie, et parce que vous avez probablement vu Porky's. On va retourner sur ces lieux-là. Mais on va voir de quelle manière on nous les montre. Je vous remontre donc cette ouverture, avec cette petite mise en contexte, et on va voir ce qu'essaie de faire John Hughes à travers ça. Je sais qu'on gère la lumière là-haut, et moi, je vous montre cette ouverture. Je vais reprendre la parole rapidement. Moi, j'aime beaucoup cette ouverture. J'aime beaucoup parce qu'on est vraiment déjà plongé dans les années 80. C'est-à-dire que je vous citais des teen movies tout à l'heure que je vous ai montré, mais n'oublions pas que les années 80, c'est aussi une période d'effervescence pour des genres très populaires comme la sitcom, par exemple, qui peut se passer très souvent dans le cadre du lycée ou de l'université. Là, vraiment, on est dans le lycée, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cette volonté d'ouvrir sur un paradoxe. On cite David Bowie, d'accord ? Dans une chanson de David Bowie, on est vraiment dans les heures de gloire de David Bowie, et David Bowie nous dit en substance... Vous vous faites une image de la jeunesse, mais sachez que la jeunesse est parfaitement consciente d'elle-même et surtout elle sait ce qu'elle fait. Prenons-la au sérieux, sous-entendu. Entre guillemets, brisons les clichés de la jeunesse. Et immédiatement, vient presque pour répondre à ce programme énoncé par la citation, bah, littéralement l'image qui vole en éclats. On va briser quelque chose dans ce film-là. Et ce qui est très beau, je trouve, le beau paradoxe, c'est qu'on brise une image et on arrive sur une autre image qui est un pur cliché. Ouverture d'un lycée, telles que vous les voyez dans la sitcom, vous savez, ces images en amorce. La sitcom, vous savez, c'est ces séries assez cheap où il y a des rires enregistrés. Bah, pour vous faire croire que vous n'êtes pas dans un studio avec des plaques en carton, on va vous filmer typiquement un lycée comme ça, en amorce, et ensuite on va vous montrer une scène. Bah, là, c'est pareil. On dirait qu'on n'a que des amorces de scènes de sitcom. On a, je vous disais, des couloirs, des casiers, le casier de celui qui va être le rebelle, des inscriptions typiques de ce qu'on peut lire dans un lycée et ce qu'on a probablement déjà vu dans des films. Pourquoi on les a probablement déjà vus ? Bah, tout simplement parce que la plume, à l'origine de ce film-là, elle en a écrit des teen movies. Il sait très bien ce qu'on écrit, il les connaît très très bien, il a déjà navigué dans les conventions du teen movie. Il joue avec ça, John Hughes. Et qu'est-ce qu'on entend en parallèle ? Un lycéen qui nous dit « Bien sûr qu'on est dans l'univers du cliché. On ne sait pas encore tout à fait à qui il s'adresse, on ne sait pas qui est ce lycéen, on ne sait pas que c'est Brian, le nerd, le brain, vous savez, le bon élève, l'intello un peu marginalisé. » Et il nous dit, en fait... tout ce que vous êtes en train de voir, c'est une espèce d'excursion zoologique dans le catalogue de, toutes les images, de toute l'imagerie du film de lycée. Bon. Et j'aime bien que le film s'ouvre là-dessus. On vous promet de faire voler en éclats quelque chose, mais on confirme tous les clichés immédiatement. Et surtout, on les confirme en montrant que tous ces lieux-là forment le décor très, je dirais, devenu très commun de la fiction américaine. Maintenant, c'est là-dedans que baigne la fiction américaine. Vous le connaissez tous, vous y baignez dedans, même si vous n'êtes plus au lycée, en allumant votre télé, vous retournez au lycée. Et donc c'est le décor de quelque chose, c'est le cadre de quelque chose. Et cette notion de décor et de cadre, puisqu'on commence, on n'a pas de personnage, vous avez vu personne, hein, mais on commence par la description d'un lieu. Et ce lieu, il va être très important, parce que ce lieu, je vous le disais, c'est un cadre, c'est un décor. Mais un décor au sens aussi, dans ce que ça veut dire. Le décor, c'est le champ lexical de la scène, du théâtre. Et mine de rien, tout ce à quoi vous allez assister, c'est des jeunes enfermés dans un lieu unique, temporalité unique, unité de lieu, unité de temps, où chacun va avoir un rôle à jouer. Et ce rôle, vous allez voir, et c'est là que le film est assez subtil selon moi, ce rôle, immédiatement, on va vous montrer qu'il est répété, qu'il fait l'objet d'un travail, presque un travail de répétition, vous savez, au sens des acteurs. Et à quel moment ça se voit ? Bah, juste après, je vais enchaîner. Chacun arrive dans sa loge, chacun arrive dans sa voiture, chacun arrive dans son milieu, en fait. Et la voiture, vous allez voir que la symbolique de la voiture, elle est très importante. Ça passe assez vite, mais il faut être sensible à ça. Chacun n'arrive pas dans la même voiture. Là, on va commencer par un personnage en particulier qui n'arrive pas dans la même voiture. Il y en a même qui arrivent sans voiture. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Qu'est-ce que ça nous raconte justement de ce premier sujet du film qui est les clichés de l'adolescence, en fait ? Eh bien, je vais enchaîner, puis on va voir ce que ça nous raconte. Tamara, j'enchaîne avec... Alors j'ai poussé jusqu'ici parce qu'évidemment la scène de l'arrivée va avec la suite. Et je trouve que, toujours de manière très subtile, d'emblée, le film vous dévoile sa grande métaphore. Le lycée, et encore plus quand on est tous assignés à résidence dans une même pièce, dans un même lieu, dans une unité de lieu, le lycée, ce cadre-là, est un théâtre social, bien évidemment, où chacun est tenu de respecter sa partition. Et c'est ça que j'aime bien dans cette arrivée en voiture, qui bien sûr... rappelle que, en montrant que quelqu'un arrive en BMW, d'autres arrivent dans des voitures plus modestes, d'autres arrivent sans voiture. Bien sûr, rappelle que la voiture est aussi le symbole du milieu social de provenance. Et donc, que cette donnée-là va avoir une importance dans la définition de la hiérarchie sociale, de sa place dans la société et dans la petite pièce de théâtre du lycée. Bien sûr que c'est ça. le symbole de la voiture. Mais c'est pas que ça. C'est aussi le discours qui est tenu dans la voiture. Je trouve ça très malin que les trois premiers personnages subissent une espèce de coaching, vous savez. Alors je parle du mot coaching, bien sûr, parce que ça marche avec le personnage du champion. Son père lui dit, il le coach pour la réussite. Tu dois réussir, cette erreur de parcours, c'est pas normal. Mais les autres sont tout aussi coachés, ou du moins réassignés dans leur personnage, réaffublés du manteau de leur personnalité sociale au lycée. Tu es la petite, on dirait aujourd'hui dans le langage des jeunes, la fraîcheur du lycée, tu es la prom queen, tu es la reine de beauté, le père qui est hyper conciliant, qui lui passe tout, qui l'affirme en fait dans son identité, mais donc qui la fabrique un petit peu. Évidemment, Brian, vous savez, le bon élève, à qui que sa mère sermonne et à qui sa mère lui rappelle que là, tu vas, ton rôle à toi, c'est d'étudier. C'est une erreur de parcours, tu as bien sûr commis une erreur, mais tu vas retrouver ton personnage. Ça n'était qu'une distraction. Tu vas retrouver ton personnage. Et bien évidemment, le champion qui est peut-être presque celui, Andrew, celui sur qui pèse le plus de pression sociale, on le verra tout à l'heure, de quelle manière il va craquer cette espèce de costume. Et puis ensuite, ben, un personnage, la marginale, la plus marginale, qui, elle, est carrément pas calculée par ses parents, ce qui va bien sûr définir aussi son rôle, en marge. Et puis, the criminal, Bender, qui lui, carrément, arrive sans parents. Il arrive d'une espèce de arrière-marge de la société, comme si lui n'avait même pas sa place dans cette société où tout le monde arrive sagement dans son petit wagon de voiture. Il ne fait même pas partie du train. Il arrive d'ailleurs perpendiculairement au sens de tous les autres. Il arrive tout droit. C'est intéressant, parce que tout ça vient définir les personas et les masques. Et évidemment, la scène immédiatement... Qui fait immédiatement suite à cette arrivée de chacun dans son carrosse, de chacun dans sa loge, c'est tout simplement la pièce de théâtre. Andrew se met devant, au premier rang, Claire se met devant aussi, le cerveau Brian va immédiatement chercher à dire qu'il n'a pas sa place ici, moi ça n'est pas normal, il va tout de suite chercher de manière un peu complaisante à s'attirer la sympathie de l'autorité, à savoir le principal, et puis les deux marginaux vont tenir leur partition de marginaux. Et donc, s'explique cette espèce d'entrée en matière qui commençait par une voix qui nous parlait. On comprend très vite qu'en fait, ce monde, cette pièce de théâtre, elle est régie par des autorités, par des metteurs en scène, qui sont bien sûr les adultes. Les adultes, ce sont les parents, qui sont les metteurs en scène dans le cadre domestique et qui préparent à la vie en société. Et puis, c'est aussi le principal, qui est le relais parental de l'autorité parentale, le relais de l'autorité sociale. Il y a des metteurs en scène et il y a des acteurs. Les acteurs, ce sont les adolescents. Et c'est ici que vient s'expliquer ce début du film. Vous vous souvenez, on entend une voix off. On entend la voix off de Brian qui nous parle et qui nous dit « Vous nous voyez comme ça ». Pourquoi ils nous parlaient ? Parce qu'en fait, on vient de comprendre qu'ils ont reçu un devoir. Ils doivent écrire sur qui ils sont. Et ce qui est très amusant, c'est que, en fait, Brian nous dit « Mais vous savez qui on est, puisque c'est vous qui nous avez inventé nos costumes. Vous savez très bien qui on est. » Et le principal ne va jamais cesser pendant tout le film de réaffirmer que leur image est fixée pour toujours dans son regard à lui. Ça ne changera pas. Et c'est d'ailleurs de là que viennent les tensions du film avec le principal. Vous refusez de considérer que nous puissions être autre chose. Bon, très bien. Les adolescents sont donc des acteurs. Mais ce qui est très intéressant et très malin, c'est que dès lors qu'on leur confie un stylo, dès lors qu'on les enferme les uns avec les autres, dès lors en fait qu'ils vont devoir interagir et sortir, fendre leur coquille et peut-être essayer de trouver des terrains d'entente, eh bien on va comprendre la grande métaphore sur laquelle s'ouvre le film. L'adolescence, c'est quoi ce passage intermédiaire? C'est quoi? C'est un moment où on est l'interprète d'un rêve que l'on n'a pas écrit. C'est pas nous qui sommes l'auteur du rêve de réussite qu'on nous a inventé. Ça, c'est les parents. C'est pas nous qui sommes l'auteur même parfois de notre personnage. C'est les parents, c'est les enseignants, mais c'est aussi peut-être la pression qu'on s'inflige nous-mêmes. La pression qui est retombée de ses parents, de ce monde adulte-là, de l'ordre social, et qui en fait va venir teinter la vie du lycée. À quoi on la voit cette pression? Ben, je vais vous la montrer. C'est pour ça que j'ai prolongé en fait la séquence jusqu'ici, parce que ce qui est très beau, c'est que la séquence vous montre que cette pression, les adolescents n'en sont pas simplement les victimes, ils en sont à leur tour les acteurs. Qu'est-ce qu'ils jugent dans le film? Qui vient juger? C'est d'abord les adolescents eux-mêmes, évidemment. C'est d'abord le regard des autres. Et c'est pour ça que je découpe jusqu'à ce moment où la plus marginale des marginales qui laisse échapper un geste un peu de fébrilité, d'anxiété, elle se ronge les ongles comme ça peut arriver, est immédiatement observée à l'unisson par, d'abord évidemment, l'autorité principale, à Alors, il ne la regarde pas, mais il surveille. C'est ce rapport toujours très vertical à l'autorité, à la hiérarchie. Vous devez tenir votre rôle, garder votre place, rester à votre chaise. Mais aussi, le relais qui se passe dans le regard des autres. Et ce relais-là, qui vient aussi bien du plus marginal que, disons, des plus intégrés de la bande, des plus raccords avec leur personnage théâtral, ce relais-là vient signifier à cette marginale qu'elle doit rentrer dans le rang. C'est un rapport, c'est littéralement un rappel à l'ordre. Le regard, ici, est un rappel à l'ordre. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Que les lycéens, comme je vous disais, ne sont pas simplement des victimes. Les lycéens ont absorbé ce qu'on attendait d'eux. Les lycéens sont des acteurs sur la scène du regard des autres. C'est quelque chose qui va énormément revenir plus tard dans le film. Vous n'imaginez pas la pression que, certes, nos parents nous mettent, Brian notamment, Andrew notamment, mais Claire, par exemple, le personnage, vous savez, de Reine de Beauté, Claire, elle va rappeler que la pression, elle vient aussi de son environnement amical, de la société elle-même. Et je trouve que cet enchaînement de plans autour du regard des autres vient rappeler à quel point les cadres sont boudinés et boudinants dans ce lycée-là, et donc dans cette vie sociale-là. Nous sommes dans un théâtre où déroger de son personnage est une tâche extrêmement difficile, si ce n'est impossible. Celle qui est plus encline à le faire va immédiatement être rappelée à l'ordre et va cesser, évidemment, de se ronger les ongles. Bon. Il y a une autre scène que j'aime beaucoup et qui, évidemment, va permettre de faire avancer le récit et surtout de faire avancer le récit vers les enjeux du récit, à savoir comment fendre sa coquille, comment se découvrir soi-même. Souvenez-vous que c'est, mine de rien, la demande de la dissertation. Écrivez sur qui vous croyez être. Sauf qu'elle est exigée par quelqu'un qui a déjà fixé leur image. Eux, tout le film, va essayer de répondre à cette question. Et il y a une scène qui est très amusante et qui va nous permettre aussi de rappeler que le film part plutôt sur des bases comiques, pour ensuite nuancer cette tonalité. C'est la scène du déjeuner. Vous savez, je vous disais, la voiture est évidemment le symbole du milieu social de provenance, de la fabrication du personnage que vous jouez sur la scène sociale. Mais il y a aussi la scène du déjeuner, qui ramène quelque chose de leur milieu de provenance et qui vient là encore marquer les différences de chacun. Assigner chacun au rôle qu'il est. Comme si cette séquence, et d'ailleurs c'est une entrée que vos élèves peuvent parfaitement comprendre, comme si cette séquence illustrait, vous savez, l'adage « tu es ce que tu manges ». La nourriture nous conditionne. Et la séquence, je la fais traîner un petit peu plus longtemps, vers l'un des coups d'éclat de Bender, parce que vous avez bien compris que toute la première partie du film appartenait en fait au personnage du rebelle, appartenait à Bender, et on va essayer de comprendre ce qu'il fait Bender. Pourquoi Bender ne cesse de provoquer? Et pourquoi il provoque au moment du déjeuner? Pourquoi, en fait, toutes ces provocations finissent par porter leurs fruits au moment du déjeuner? Je vous montre donc cette séquence-là, qui intervient un peu plus loin dans le film. Ouais, vous l'aviez compris, hein, la scène du lunch, du repas, est un rappel de la scène des voitures. Il y a cette espèce d'idée que tout ce qui provient de la famille, tout ce qui provient du milieu de provenance, vient dessiner une espèce d'absurde prédestination sociale et surtout un rôle à jouer que... À ce moment du film, les adolescents respectent très docilement. Chacun ouvre son lunch et déroule le programme de qui il est, de qui on attend qu'il soit, en fait. D'où la petite interprétation outrancière de Bender sur la fin. J'y reviendrai. Mais donc, qui ils sont? Je trouve que c'est assez finement fait. Qui ils sont? Ça peut paraître un peu bizarre aujourd'hui à quel point ça s'est vulgarisé, mais manger du sushi au lycée au milieu des années 80, aux États-Unis, c'est hyper raffiné. C'est un truc que j'ai observé en regardant des films des années 80, pas à cette occasion hein, dans ma vie de cinéphile. C'est un truc que j'ai observé, c'est que souvent, quand il fallait, dans les années 80, vraiment cette décennie-là, quand il fallait établir un marqueur social de qui appartenait à la haute, à la upper class, on mangeait du sushi et c'était normal. Je pense notamment à un film comme Wall Street de Oliver Stone, dans lequel il y a un personnage de grand financier qui apprend à son poulain à manger du sushi. Et or, ce poulain, il vient d'un milieu social très populaire. Qui est d'ailleurs joué par... c'est marrant, je fais des connexions là. Qui est d'ailleurs joué par Martin Sheen, le père d'Andrew. Bref, totalement anecdotique. Mais le père ne comprend pas pourquoi son fils se met à manger du sushi. Il trouve ça extrêmement trop distingué. Mais c'est justement ça, l'idée du sushi. L'idée du sushi, c'est l'idée d'une classe sociale qui se distingue des autres, la bourgeoisie. La haute bourgeoisie, l'upper class américaine, on se distingue des autres. Et c'est vraiment le cliché de ce qui se passe où vous avez ce marginal Bender qui lui dit « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu manges ?» C'est vraiment le petit théâtre, la petite répétition de cette scène qu'on a vue dans tous les films où la jeune fille provenant de l'upper class sait parfaitement qu'on peut manger du sushi, enfin elle sait ce qu'est le sushi, et c'est un marqueur social. À côté, vous avez Andrew, on dirait qu'il ne mange même pas, il ne sort que des calories. On dirait qu'il ne vient faire une pyramide de tout ce qu'il doit consommer pour alimenter ses muscles et pour s'alimenter en énergie. C'est un programme. Et mine de rien, Andrew, vous avez vu le film, vous avez vu que c'est peut-être celui avec Brian, le cerveau, sur qui pèse le plus d'attentes tu dois être un champion, tu dois être dans l'hyper réussite, tu dois décrocher une scholarship, une bourse. Vous savez, ces bourses qui permettent d'aller faire des études au motif qu'on est un grand sportif aux États-Unis, ça marche comme ça. Donc, c'est presque cette attente, elle vient se matérialiser comme ça dans ce trop-plein de nourriture, quoi, et qui va devoir ingurgiter. C'est presque comme s'il ingurgitait métaphoriquement ses propres attentes, tout ce qu'on a placé en lui. Évidemment, vous avez Brian, le bon élève, qui sera d'ailleurs caricaturé comme tel par Bender, qui déroule le repas le plus équilibré et nutritif, puisque Brian, vous l'avez compris, est un bon élève, et lui aussi respecte les attentes parentales. Brian mange bien, et d'ailleurs Brian est peut-être morphologiquement celui qui est le corps le plus svelte, en meilleure santé. Bref, en fait, ils sont tous beaux, hein, vous avez bien compris. On reste dans le cinéma américain, on y reviendra tout à l'heure quand on fera la comparaison avec les beaux gosses. Mais Brian, c'est le repas le plus sain, c'est le bon élève jusqu'au bout. Et évidemment, scène la plus humoristique, le repas de la plus marginale des marginales, je ne me souviens plus de son prénom, je suis désolé, Allison, merci. Le repas d'Allison qui consiste en du beurre, des curly, du sucre, un coca, le tout écrasé, et on mange ça comme ça. Allison, évidemment, ce repas trahit que ses parents ne s'occupent pas du tout d'elle et qu'on ne prend pas soin d'elle. Et donc avec Allison, puis Bender, à qui personne n'a rien préparé, vient aussi l'idée que le repas, bien sûr, c'est le reflet du milieu social d'où on vient, mais c'est aussi le reflet d'une affection qu'on vous porte. Bender, s'il finit par craquer juste après, c'est parce qu'on ne lui porte pas d'affection. Même au contraire, il provient de... C'est celui dont la place dans le milieu social, dans la société, est la plus précaire. Et d'ailleurs, Bender, qu'est-ce qu'on lui a dit? Parce que là, il y a eu entre l'extrait que je vous ai montré avant et celui-là, il y a une bonne demi-heure. Qu'est-ce qu'on lui a dit pendant cette demi-heure au cours de toutes ces provocations où, en fait, il essayait au marteau-piqueur de fendre les masques un peu trop parfaits de tous ces bons lycéens? Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, mais toi, si tu disparais, Andrew lui dit, le champion, il lui dit, mais toi, si tu disparais, personne ne se rend compte que tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que sa place est précaire. Souvenez-vous, il ne vient même pas d'une voiture, il est un peu sapé n'importe comment, pas très loin d'ailleurs de ce que les Américains appelleraient un hobo, une espèce de errant, un clochard, quoi. Il ne vient pas du tout du même horizon, on ne lui a pas préparé de repas. Bender n'a pas sa place dans cette pièce de théâtre-là. Et d'ailleurs, le principal ne cessera jamais d'essayer de l'en extraire, de l'exfiltrer, de l'enfermer. Et c'est là que toute cette scène de repas, puis de stand-up qui s'ensuit, parce que c'est une scène de stand-up, ce qui arrive après, c'est là que toute cette scène de repas et de stand-up prend son sens. Je vous disais tout à l'heure, toute la partie du film, la première partie du film appartient vraiment à Bender. Vous l'avez vu, vraiment, le film fait un peu moins de 2 heures, la première heure, c'est Bender qui provoque tout le monde. Bender, 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 provoque, provoque, provoque. Et là, c'est très intéressant parce que sa provocation, alors que jusqu'ici, ses provocations étaient restées plutôt stériles, ça n'avait pas provoqué autre chose que des réactions un peu molles, chacun se retranchant derrière son personnage, refusant de le remettre en question. Ici, Bender obtient quelque chose. Et comment il l'obtient? C'est là que c'est très intéressant. Il l'obtient de la façon la plus théâtrale possible. Il se met à rejouer qui ils sont. Comme si, en fait, Bender, en choisissant un peu impulsivement de mimer ce qui doit se passer dans la famille de Brian, puis de mimer à la demande d'Andrew ce qui se passe dans sa famille à lui, comme si Bender, en agissant, en ayant recours au théâtre, à une forme de théâtralité très outrancière, révélait en fait la fiction de tout ce qui se passait. Mais tout cela n'est que du théâtre. Et comme si justement, en jouant lui-même, en exagérant le trait, en grossissant le trait, il essayait une fois encore, je vous disais, marteau-piqueur, casser les masques, tomber le masque, il essayait par le théâtre, presque, d'agir par une espèce de trop-plein de théâtre. Arrêtez avec tout ce fake et cette facticité. Vous êtes autre chose que ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il montre la voie. Il y a effectivement un effet à cette ultime provocation de Bender. L'effet, c'est quoi? C'est que Bender est le premier à lui-même retirer son masque. Il ne le retire pas vraiment, mais il révèle, il laisse entrevoir un petit peu d'où il vient et qui il est. Et pourquoi il agit comme ça? Parce que Bender n'a pas sa place dans l'ordre social. Et là, la fonction de Bender, elle est très intéressante. Et je vais revenir d'ailleurs à la comparaison que je faisais tout à l'heure avec l'idée qu'il fait un stand-up. La fonction de Bender, elle est très intéressante parce que Bender, c'est un personnage qui existe dans le cinéma américain. C'est pas une invention, hein, c'est le rebelle. Mais le rebelle, ici traité sous un angle particulièrement parasitaire. C'est un parasite, il n'a pas sa place. Pas de voiture, pas de déjeuner, pas sa place. C'est un parasite. Or, la fonction du parasite, on la connaît, hein, elle existe depuis Charlie Chaplin, pour vous donner une référence que vous connaissez tous. La fonction du parasite, c'est celle de ne pas avoir sa place dans l'ordre social, et donc, si on a envie d'exister, on provoque. Et la meilleure façon de provoquer un ordre social où vous n'avez pas votre place, c'est d'y semer le désordre. C'est la fonction en propre de la provocation. La provocation, elle a deux fonctions. Faire réagir. Il y a des réactions qui sont plus ou moins intéressantes. Jusqu'ici, les réactions n'étaient pas intéressantes. Et la deuxième fonction de la provocation, c'est résister à l'oppression. Car l'ordre social, je vous le montrais avec les regards tout à l'heure, est une oppression. Si vous n'avez pas votre place là-dedans, c'est oppressif. Bender réagit par la provocation à cette oppression, à cette chaussure qui essaie de le maintenir à ce qu'il est. Ah bon ? Vous voulez que je sois ce marginal condamné à recevoir des aides sociales et à en fait reproduire le schéma parental, à savoir devenir un alcoolique dans mon canapé ? Vous voulez que je sois ça ? Je réagis contre ça. Je pointe du doigt que vous aussi, vous êtes tous des menteurs. C'est en propre ce que fait le vrai stand-up, c'est-à-dire le stand-up fidèle à ses racines agressives. Le stand-up, peut-être que vous n'êtes pas forcément familier, on en parle beaucoup en ce moment du stand-up. Le stand-up, c'est une forme de spectacle scénique à la première personne qui vient typiquement de la culture anglo-saxonne. Nous, vous savez, en France, on se cache derrière des personnages. Ça venait du café-théâtre, Coluche, le nez rouge. Les inconnus, on joue des sketchs derrière des personnages. Les Américains ont très vite, dans les années 50 d'ailleurs, même moment où apparaît le teen movie, ont très vite vu apparaître une espèce de nouvelle forme de spectacle scénique qu'ils ont appelé le stand-up et qui arrivait avec une personnalité qui s'appelle Lenny Bruce. C'est vraiment le grand modernisateur du stand-up. Et Lenny Bruce, sa fonction, c'était de provoquer, de démasquer toutes les hypocrisies de l'ordre moral et de l'ordre social. Démasquer la bonne morale de la société américaine des années 50. Et il ne le faisait pas dans n'importe quelle décennie, il le fait dans la décennie Eisenhower, l'une des décennies les plus familialistes, les plus conservatrices qu'a connu les États-Unis d'Amérique au moment du XXe siècle. Or, dans les années 80, le stand-up, je vous fais un petit historique, mais je pense que c'est une référence intéressante, et mine de rien, qui tisse des ponts avec ce qui se passe aujourd'hui sur la scène comique, même en France, hein, le stand-up, ça marche, les jeunes regardent du stand-up. Eh bien, dans les années 80, 85, le stand-up connaît encore ce qu'on appelait un espèce de second âge d'or du stand-up. Le premier, c'est l'apparition de Lenny Bruce, puis ensuite des personnalités comme George Carlin, vous les connaissez peut-être pas, mais si ça vous intéresse, allez voir, George Carlin, Richard Pryor. Puis à la suite de ces premiers, comme ça, de ces espèces de béliers, viennent une seconde génération, pour certains vous les connaissez très bien, comme par exemple Eddie Murphy, qui va ensuite aller plutôt au cinéma, mais il vient du stand-up, comme Steve Martin, comme dans ces années-là, Robin Williams, qui ensuite, vous savez, fera tous les films, Madame Doubtfire, tout ça, au départ, il vient du stand-up. Or, le stand-up, chez les Américains, assume cette posture-là, celle de Bender. Démasquer l'hypocrisie des autres, la facticité de l'ordre moral et pointer du doigt les intérêts qui y président. C'est exactement ce qu'est en train de faire Bender. Et moi, j'aime bien que dans cette scène où chacun respecte docilement ce qu'on attend de lui à travers la nourriture, Bender, qui n'a pas de nourriture, vienne provoquer tout ça. Bien essayer de démasquer tout ça. Évidemment, vous avez compris, vous avez vu le film, Bender va arriver à ses fins, puisque là, toute la deuxième partie du film, qui va plutôt appartenir aux autres personnages, eh bien, va consister en le spectacle du fruit de ses provocations. Bender, effectivement, va réussir à faire tomber les masques. Mais avant ça, il y a une petite scène, un peu, que je qualifierais de presque de tour de chauffe. Les personnages vont se dégourdir. Bender, vous l'avez vu, il n'a pas sa place dans l'ordre social. C'est donc celui qui est le plus propice à transgresser. Et la première chose qu'on transgresse quand on est assigné dans une pièce, eh bien c'est l'espace. À l'enfermement spatial, répondait aussi l'enfermement dans son image, l'enfermement dans le personnage. Eh bien la première façon de se libérer de ça, c'est de fuir cet enfermement spatial. Et donc, courir dans les coulisses du spectacle, dans une scène complètement cartoonesque qui va vous rappeler, peut-être pour ceux qui les ont vus, les cartoons de Scooby-Doo. On va aller vraiment dans le point d'orgue comique, celui de la libération des corps, en tout cas la première libération des corps, pour voir ensuite ce à quoi ça donnera lieu. Je vous montre cette scène un peu Scooby-Doo-esque, et on voit à quel événement inattendu ça nous prépare. Donc Tamara, il faut d'abord que je retrouve. C'est quand je me suis un peu demandé si elle méritait d'être montrée, mais oui, je pense, pour se rappeler que là, on est dans l'analyse, on dit des choses très sérieuses et tout, mais il faut quand même se souvenir qu'on est face à un objet commercial qui séduit des jeunes. Et donc, il faut les faire rire. Et donc, il faut rappeler aussi les nuances et les registres avec lesquels joue le film. Et là, vous êtes vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, le point d'orgue comique. Je veux dire, il n'y a évidemment aucune logique à cette course-poursuite, vous l'avez bien compris. Je citais tout à l'heure Scooby-Doo, vous savez, quand on ne savait plus exactement l'abscisse l'ordonnée du monstre, il finissait par passer devant le monstre qui attendait comme ça, comme le personnage derrière. Vous vous souvenez un peu des Scooby-Doo, qui était vraiment le spectacle d'une pure dépense de course-poursuite qui venait presque exagérer de manière outrancière les courses-poursuites du cinéma burlesque, quoi. Il n'y a même plus de finalité. Ben, c'est un peu pareil. Là, il n'y a pas vraiment de finalité. C'est juste le spectacle d'une pure dépense d'énergie qui avait besoin de se dépenser. C'est l'idée de trouver dans une petite séquence un peu bubblegum, un peu pop, un peu acidulé, de trouver une forme burlesque à l'ivresse de la transgression. Ah, ça y est, on peut sortir de la scène de théâtre, on n'est plus surveillé, on s'autorise cette transgression, et c'est vraiment la libération des corps. Et je parlais tout à l'heure de tour de chauffe. Évidemment, on est en plein milieu du film. Là, vous êtes vraiment au beau milieu du film. Et c'est un tour de chauffe pour ce qui va suivre. Ce qui va suivre, bien sûr, c'est qu'après cette première libération des corps, cette conquête de l'espace, va arriver une autre libération, peut-être une libération plus intérieure, et une conquête encore plus, peut-être encore, l'enjeu est aussi important que celle de la libération intérieure, une conquête de soi, pourquoi pas de son identité, parce que vous avez bien compris que c'est le grand enjeu du film, mais aussi de l'adolescence, et donc du teen movie. L'adolescent a-t-il une identité propre, ou est-il seulement coincé entre les deux âges intimidants de l'enfance et de cette innocence-là, et de l'âge adulte, avec tous les compromis que ça représente. Est-ce qu'il y a une identité adolescente en propre? On va voir que dans toute la deuxième partie du film, il va s'agir de la conquérir. Et, comédie pour ados, évidemment, il y a un petit déclencheur. Vous avez bien compris pourquoi je disais qu'il n'y avait pas de finalité à la courte poursuite, mais il y avait une finalité à sortir de la salle, à aller chercher ce déclencheur, justement. De la drogue, de la weed, de l'herbe. Je ne cautionne pas, bien évidemment. Mais je vous montre le résultat de sa consommation, puisque, souvenez-vous, scène d'avant, on a quand même une tendance dans ce film à montrer qu'on est des acteurs de théâtre, qu'on est constamment assigné à un jeu. Vous allez voir quelle forme prend le délire, le délirium. Peut-être que ça prend, là encore, une petite forme théâtrale et performative. Alors, je crois que c'est juste après, en fait. Bon, vous l'avez compris, l'enjeu de la scène, expérience particulièrement performative. Dès qu'ils se mettent à fumer, dès qu'ils se relâchent un peu et qu'ils se détendent par rapport à leur image, leur personnage, ça prend une forme théâtrale, ça prend une forme même spectaculaire. Comme si, en fait, au spectacle imposé, il fallait reconquérir cette performance-là. Il fallait proposer un contre-spectacle. Vous attendez ça de nous? Eh bien, on va, chacun à notre manière, proposer un contre-spectacle. Brian va proposer quelque chose de très plein de second degré, un personnage, quelque chose de complètement différent de lui. On a l'impression qu'il cite quelqu'un. S'il le fait, j'ai pas la référence, mais disons qu'on a l'impression qu'il cite une espèce de vieux comédien de stand-up, un peu crooner des années 50. Claire, elle va presque jouer sur le mode un peu comme Bender tout à l'heure. Elle va jouer à exagérer son personnage. Elle va être atteinte d'un espèce de délire mégalomane où elle va dire « Mais tu imagines pas à quel point je suis populaire » en devenant une espèce de caricature d'elle-même qui va, là encore, à la manière de Bender, entraîner une confession, entraîner peut-être, pourquoi pas, un mouvement plus introspectif, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces performances. Et bien sûr, la performance de Andrew, qui est de tous les personnages celui sur qui pèse le plus d'attente, celui qui est le plus boudiné dans son costume. Rappelez-vous, son costume, c'est quoi? C'est des collants. Il est lutteur, ça lui colle à la peau. C'est... Ah! Son costume de lutteur, c'est aussi, bien sûr, la métaphore de toutes ces attentes qui l'enserrent, sous l'emprise desquelles il évolue, quoi, quotidiennement. Et donc, là, on a un adolescent qui est une espèce de chrysalide qui craque sa carapace et qui vient dans une performance, cette fois-ci, complètement informe. Briser tout le... J'ai presque envie de dire briser tout ce qu'on lui demande de faire, parce que faire du sport et être un champion, c'est toujours respecter les règles, en fait. Le sport, vous n'êtes pas sans savoir la symbolique du sport dans la fiction, dans la société, et encore plus... Dans le cinéma américain, le sport, c'est bien sûr le prolongement d'une performance nationale. C'est le prolongement, disons, des énergies guerrières, des énergies conquérantes, mais réglementées par des codes. Donc, quand vous êtes un champion, vous êtes un bon élève. Vous respectez ce qu'on attend de vous. Andrew, ici, et c'est pour ça que c'est presque le personnage le plus important de la deuxième partie du film, c'est celui qui est le plus docile et chez qui... L'introspection, chez qui la découverte de ses faiblesses, de ses fragilités, d'une intériorité, d'une conscience morale, va être la plus spectaculaire. Et c'est d'ailleurs ce personnage-là que le film va choisir comme espèce de figure de proue pour montrer qu'on bascule dans une autre tonalité. Vous avez vu un passage très burlesque, très cartoonesque. Là encore, vous venez de voir un passage très performatif, assez léger. Voilà, bon, on est sur une scène de drogue. Et à quoi va succéder cette scène de drogue? Eh bien, tous vont se rassembler, comme former un espèce de petit cercle, brisant une dernière fois les barrières sociales du personnage, de la hiérarchie, du petit lycée, du petit théâtre, pour faire groupe, faire corps, et surtout confesser eh bien, les inquiétudes, les doutes de cet âge. Et surtout, comprendre que ces inquiétudes et ces doutes, par capillarité, par contact, sont peut-être ce qui va permettre de former une espèce de communauté de génération, une communauté d'âge. Souvenez-vous, tout l'enjeu du film, c'est de faire voler en éclats des clichés pour les remplir d'une identité, pour essayer de sonder l'identité profonde. Est-ce que l'adolescence a une identité, ou n'êtes-vous que les clichés et les acteurs des rêves de vos parents? Eh bien, c'est chez Andrew, je dirais, que la confidence prend le plus de sens. Et d'ailleurs, vous allez voir que la mise en scène va un peu déroger de ce qu'elle avait jusqu'ici de plutôt conventionnel pour un peu épouser, accuser la profondeur et l'approfondissement de ce qui est en train de se passer chez le personnage. Je vais donc vous montrer là la prise de conscience, de sa propre conscience morale d'Andrew. Enfin, le projet de Bender porte ses fruits. Il se trouve des terrains d'entente autour, bien sûr, du rejet de l'autorité, autour du rejet de la figure de leur père. Et ce qui est très intéressant, en fait, toute la scène là est très longue. C'est une scène où ils sont tous assis comme ça, vous l'avez vu tout à l'heure, où en fait chacun peut un peu, pas Bender, parce qu'il a un peu déjà battu ses cartes, mais tous les autres vont un petit peu se dévoiler et livrer qui ils sont, leurs faiblesses, leurs inquiétudes, leurs mensonges. Et donc la part de facticité du personnage qu'ils ont créé sur la scène du lycée. Mais là, ce qui est intéressant, pourquoi je fais le focus sur Andrew, et pourquoi, selon moi, le film, d'ailleurs, accorde autant d'importance, même esthétiquement, formellement. C'est le moment où le film prend vraiment soin d'installer une musique un peu planante, de prendre le... Il fait cette espèce de travelling en arc de cercle qui, peu à peu, se rapproche du personnage, comme pour vraiment épouser et accompagner son introspection. Je pense que c'est parce que Andrew est aussi le personnage le plus intéressant à fissurer. Andrew, c'est, je vous le disais, le champion, mais c'est aussi celui, on est en 85... qui vient ici en pointant du doigt la pression et l'absurdité de cette idée d'être le number one, d'être le numéro un, de ne pas tolérer les losers, qui vient un peu discrètement pointer du doigt l'idéologie dominante de sa décennie. On est en 85, on est en plein triomphe du cinéma reaganien. Vous savez, les années Reagan, qui sont une grande période de reconquête par l'Amérique de sa propre image, de sa puissance, de ses ambitions impérialistes, et ça se traduit au cinéma. Andrew, c'est un personnage... Je vous montrais tout à l'heure Risky Business avec Tom Cruise, mais c'est celui qui ressemblerait le plus à un Tom Cruise, en fait. Vous savez, l'année d'après, là on est en 85, l'année d'après va sortir Top Gun, où va s'afficher l'exemplarité de ce programme de réussite mis en fiction. Quoi. C'est vraiment, on va simuler de la réussite alors qu'il n'y a même pas d'ennemi. Quoi. Un pur programme triomphaliste qui tourne à vide. Bah là, justement, Andrew vient nous dire que tout ça tourne un peu à vide, et que lui ressent la pression de tout ça. Alors, on ne va pas non plus faire du film une grande satire sociale, c'est pas vrai, le film est très dans son époque aussi, le film est très, flatte énormément l'idéalisme du cinéma hollywoodien, mais quand même, pour qu'un teen movie, en allant creuser un peu dans l'introspection de ses personnages, aille aussi frayer tout au bord, comme ça, avec une forme de dénonciation, c'est un mot un peu fort, mais de signalement de certaines absurdités, bon... C'est quelque chose de très neuf, de très novateur dans le cinéma, dans ce genre de film qui s'adresse aux ados. Je pense que ça contribuera aussi à le crédibiliser aux yeux des ados, ce film. C'est-à-dire, vous ne nous avez pas simplement pris pour une espèce de catégorie sociale, une tranche d'âge, vous nous voyez capables d'avoir un point de vue critique, capables de nous remettre en question, et de remettre en question, pourquoi pas, l'ordre social dans lequel on essaie de nous rentrer au pied de biche. Évidemment, intéressant aussi de noter que le moment... un peu le point d'orgue de cette confession, va prendre là encore la même forme que chez les autres, une espèce de petite crise théâtrale où on va mimer le père, on va caricaturer le père, on va le grossir, on va proposer ce contre-spectacle qui éclate la figure, le masque et les attentes. Souvenez-vous, tout ça part d'une performance outrancière de Bender, qui d'ailleurs va accueillir cette confession en disant « bah finalement, il semblerait que malgré les différences, on a un peu le même rapport à l'autorité, à nos patriarches ». Donc on a vraiment cette idée que, après les corps, après l'espace, on reconquiert le soi. Et je pense que c'est vraiment le projet du film. Je vais vous montrer, évidemment, ce qui est la résolution heureuse, là on est dans la période la plus, le creux le plus dramatique du film, enfin le passage le plus dramatique, c'est pas un creux, le passage le plus dramatique. Et je vais vous montrer ensuite quelle forme, quelle résolution heureuse ça va prendre. On va retrouver un peu, vous savez, ce moment de performance où cette fois-ci l'enjeu n'est plus simplement que chacun isolément reprenne possession de ses moyens, reprenne possession de son corps et son image, mais cette fois-ci c'est l'idée, puisqu'on sait tous confesser qu'on a trouvé un terrain d'entente dans cette espèce de plan là où on est tous ensemble, dans ce plan qui nous rapproche, eh bien qu'est-ce que ça peut donner, quel spectacle ça peut donner, quel gag ça peut donner, et là cette fois-ci ça va prendre bien sûr une forme chorégraphiée, une forme dansée, pour appuyer bien sûr que nous sommes quand même dans un film feel good, et qu'il faut terminer sur quelque chose, une note un peu plus légère. Je vais donc vous la montrer, mais toujours en gardant en tête que, mine de rien, ça fait partie du processus initiatique de ces personnages. On conquiert quelque chose. Et peut-être qu'à travers cette chorégraphie, vous allez voir que même parfois, il y a des gestes qui vont être, synchro, il y a l'idée de faire communauté, inventer une communauté. Pas simplement un public, pas simplement une cible, pas simplement des gags potaches, faire communauté. Donc, je vous montre cette dernière scène. Je vais m'arrêter là parce que la fin est immédiatement après, vous connaissez la fin. Fin de la détention, détention évidemment polysémique, détention dans l'espace, mais peut-être aussi détention enfermement dans leur propre image. Et Brian va se mettre à écrire d'une même voix, pour eux tous, un propos qui contredit l'idée qu'ils ne sont que leur personnage du début. Mais donc ce qui est intéressant, c'est que là... Et d'ailleurs, je vous incite à... Moi, je fais toujours ça, je vais toujours lire ce qui a été écrit, vous savez, sur les films, les dossiers enseignants, les fiches élèves, tout ça. Je vais quand même toujours y jeter un œil. Et il y a notamment une partie qui est intéressante sur le pop, sur l'idée que c'est un film très pop. On est dans une décennie pop, les années 80, on a une bande-son nourrie de références contemporaines. Et que, j'aime bien l'idée que si cette résolution heureuse prend la forme d'une grande danse à plusieurs, comme ça, d'une grande chorégraphie ensemble, c'est aussi pour affirmer que... On a fait communauté, on fait corps tous ensemble, mais on fait corps tous ensemble dans pas n'importe quelle génération. La génération qui va trouver aussi un terrain d'entente dans des références populaires communes, des références culturelles communes. C'est ça la pop culture. La pop culture, c'est l'idée qu'on puisse faire culture indépendamment des langues, indépendamment des, pourquoi pas, des nations, des pays, des cultures particulières, qu'on puisse faire culture autour de références communes. Vous savez, aujourd'hui les jeunes ils disent « est-ce que t'as la ref ?» L'idée c'est ça, est-ce que t'as la rêve, ça vient de la pop culture, c'est-à-dire ça vient de Spielberg, ça vient des années 80, où avec Star Wars et tout ça, on va essayer de créer une espèce de communauté de références communes. Et ça va prendre cette forme-là, cette danse, cette espèce de danse, tous ensemble, où on fait communauté, on aime la musique qu'on écoute. On voit Brian qui choisit de mettre une musique en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, toute cette danse, si on devait lui donner une espèce de thème, lui donner une espèce de ligne directrice, ça paraît un peu nawak, on dirait qu'ils font n'importe quoi, mais quand même, si vous regardez dans le détail, on dirait un peu que c'est une danse de pantins soudain libérés de leurs fils qui, enfin, prennent le temps de déployer leurs ailes. Et puis d'ailleurs, elle termine avec une pose d'un pantin qui littéralement retombe avachi au sol, mais dans une posture un peu extatique. Avec Allison, et on a donc l'idée qu'on est passé d'un univers très morcelé où chacun était dans son petit rôle, dans sa petite voiture, dans sa petite bulle, à une communauté. J'ai pris volontairement l'idée où tout le monde rit parce que le rire c'est aussi ce qui désamorce les tensions, à quelque chose de beaucoup plus en commun, ce plan où on va décider que Brian, mine de rien, sera, outre l'opportunité de ne pas faire travailler les autres, il sera surtout la voix de notre groupe. Désormais nous faisons groupe. Évidemment, les chorés vont prendre des formes très synchro où on appuie l'idée qu'on fait une petite brochette générationnelle. Et puis l'idée aussi qu'on s'est libéré comme un pantin libéré de ses fers. Et moi, j'aime bien l'idée que, justement, si le film termine avec une image de Bender qui reste, mine de rien, dans son personnage totalement, depuis le début, déchaîné, mais avec Brian qui va écrire pour tous, j'aime bien l'idée que toute la première partie du film, Bender a détruit. Le rôle du stand-up, le rôle du comique, le rôle du rire méchant, c'est de détruire le sérieux des autres. Et donc, le sérieux qu'il essayait de détruire, c'était le sérieux de cette pièce de théâtre, le faux sérieux de ces personnages et de ces masques que vous portiez parce qu'on vous demandait de les porter. Mais le film n'est pas destructeur, il ne s'abandonne pas à cet esprit de dérision. Le film dit quand même, on va reprendre tout ça, et par la voix de Brian, on va recomposer une petite société d'adolescents. Une petite société qui, après son introspection, a pris conscience d'elle-même. Conscience d'avoir une conscience morale, conscience de son soi, de son intériorité, et de ses particularités en propre. En quelque sorte, on est passé d'interprète du rêve d'un autre à des personnages qui soudain deviennent les auteurs de leur propre vie et surtout de leur propre histoire. D'où cette voix off et Brian qui répond en écrivant et qui nous dit « Eh bien, vous nous voyez comme ça, souvenez-vous du panneau lié à citation liminaire de Bowie, mais peut-être que nous sommes autre chose et que nous pouvons parler d'une même voix. Et c'était justement ce que disait Bowie, cette jeunesse, peut-être qu'elle a des choses à nous dire et peut-être qu'elle peut vous surprendre. Je m'arrête là pour Breakfast Club, en espérant que ça vous a donné quelques pistes, que ça vous a permis de déployer un peu les enjeux du film, les métaphores. Et nous passons tout à l'heure à un tout autre programme, Les Beaux Gosses, que nous entamerons par une comparaison des deux affiches, qui, à mes yeux, suffit à résumer à quel point ils sont aux antipodes l'un de l'autre en termes de programme. Donc on verra ça tout à l'heure. Je ne sais pas si on a une ou deux questions, le temps de...